Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dimouni.
Chienne Berry. Sigika Foba. Le Grand Dialogue.
Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonsoir et merci de votre constante fidélité au programme de Studio Tamani. C'est parti pour votre émission de débat Le Grand Dialogue. Le thème de ce soir est tuberculose, comprendre et se protéger contre la maladie. Au Mali, plus de 7800 cas de tuberculose ont été enregistrés en 2022. La maladie tue au moins 500 personnes. Ces informations émanent du ministère de la Santé. Ses responsables rassurent que le Mali progresse dans la détection et la prise en charge de la maladie. Malgré que le traitement soit gratuit, des malades dénoncent des difficultés. On en parle avec trois invités, professeur Djangina Soumaré, expert en tuberculose, docteur Salif Kouni, pneumologue, Abdoulaye Koulibaly est malade guéri de la tuberculose. Je suis Mariam Maïga, encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Avant de rentrer dans le vif de cette émission, je rappelle que cet numéro de Grand Dialogue est produit et diffusé dans le cadre d'une campagne nationale de lutte contre la tuberculose, une initiative du ministère de la Santé soutenue par le Réseau africain de l'éducation pour la santé et la citoyenneté, en abrégé RAES. La première question sera pour vous, professeur Soumaré. C'est quoi la tuberculose?
Merci, Mariam, pour tout l'intérêt porté sur ce débat qui porte sur la tuberculose. En fait, la tuberculose, c'est une maladie contagieuse. Une maladie contagieuse qui est transmissible et qui sévit dans notre contrée.
Et comme vous pouvez juste regarder un tout petit peu le micro, le son n'est pas tellement audible.
Effectivement. Nous disons que la tuberculose, c'est une maladie contagieuse qui est transmissible et qui sévit, c'est-à-dire dans notre contrée. Et c'est une maladie qui existe depuis fort longtemps, depuis l'Antiquité. Mais cette maladie a été éradiquée, on peut dire, au nord. Au nord, j'entends bien, c'est-à-dire en Occident, mais en Afrique encore, ça cause des dommages dans nos populations. Donc, c'est une maladie qui peut être évitée, mais à cause de certains phénomènes tels que la pauvreté, cette maladie existe encore chez nous et ça crée du dommage, malheureusement.
Docteur Kouni, comment attrape-t-on donc cette maladie-là?
Merci beaucoup. Il l'a dit, le professeur Soumaré, c'est une maladie qui est infectieuse, qui est contagieuse, qui est due à une bactérie. Cette bactérie est appelée encore le bacille de Koch, qu'on peut retrouver dans la nature. Lorsque dans un environnement, il y a un patient atteint de la tuberculose, lorsqu'il tousse, il émet ce qu'on appelle des bécas dans la nature. Et lorsqu'il est en contact direct avec des gens, donc en respirant, ils peuvent inhaler les bécas ou encore ils peuvent avaler les bécas.
Les bécas, c'est-à-dire les salives.
Les bacilles de Koch.
Les bacilles de Koch
sont dans des petites gouttelettes, c'est-à-dire les gouttelettes de pluie, que le sujet il évacue en toussant ou en éternuant. Donc, dans un environnement clos, les gens en respirant peuvent attraper la maladie et développer la maladie. Donc, la contamination, elle se fait par voie aérienne.
Monsieur Koulibaly, vous êtes un malade guéri de la tuberculose. Pouvez-vous nous parler des signes de cette maladie-là? Comment vous avez su que vous avez la maladie-là?
Oui, bon, mon avis, je préférerais m'exprimer en bambara, si vous me permettez. Sinon, je peux m'exprimer en français.
Alors, allons-le, même si c'est le français à peu près, allons-y avec ça, alors.
Donc la tuberculose, moi, à mon avis, moi, je l'ai su à travers, ça se débute d'abord par la toux. Une toux qui est aiguë, qui commence d'une semaine à deux semaines comme ça. Et après, il y a la courbature, après, il y a les maux de tête, après, il y a la fièvre, et puis accompagné des maux de tête. Et avec des vomissements et avec une douleur au niveau de la poitrine. Donc c'est comme ça, je suis parti à l'hôpital pour aller m'expliquer comme quoi j'ai telle chose qui est inhabituelle chez moi. Donc on m'a dit d'aller voir un médecin. Donc je suis parti voir un médecin qui m'a donné la radiographie pour aller faire la radiographie. Je suis parti faire la radiographie. Donc on m'a réenvoyé encore dans le même CCRF. Donc quand je suis arrivé là-bas, chez le docteur, il m'a dit de faire le crachat. Donc c'est lorsque j'ai fait le crachat, on a détecté maintenant que j'avais la tuberculose.
Alors docteur Kone, vous venez d'entendre M. Koulibaly. Qu'avez-vous d'autre à ajouter concernant les signes apparents de cette maladie-là?
La tuberculose, il faut savoir qu'il existe différentes formes. Il y a la forme pulmonaire, il y a la forme extra-pulmonaire. Mais la forme la plus fréquente reste la forme pulmonaire. Lorsqu'on est atteint de la forme pulmonaire de la tuberculose, les signes sont généralement respiratoires. Il y a la toux, il y a la douleur thoracique, il y a la difficulté respiratoire en fonction de l'étendue de la lésion au niveau pulmonaire. Parfois, il y a aussi l'hémoptysie. L'hémoptysie n'est autre que le rejet par la bouche au cours d'un effort de toux, du sang rouge qui provient des voies aériennes inférieures. Donc, en plus de ces signes respiratoires, il y a d'autres signes accompagnateurs qui sont des signes d'altération de l'état général qui sont faits d'asthénie du sujet sans une fatigabilité, d'asthénie, d'anorexie, de manque d'appétit et d'amaigrissement. Il perd progressivement du poids. Donc globalement, ça, c'est les signes. Et parfois, c'est des sujets qui font ce qu'on appelle la sueur nocturne. Donc ils font une fièvre nocturne associée à une sueur profuse et diffuse, donc qui est là. Donc globalement, voici les signes qu'on rencontre dans la tuberculose pulmonaire. Et les signes extra-pulmonaires dépendent de la localisation de la tuberculose.
On parle également de la tuberculose osseuse, est-ce la même chose?
C'est une forme extra-pulmonaire. Donc là, ça, c'est lorsque les BK sont localisés au niveau des os. Et là, généralement, les signes, c'est la douleur osseuse, généralement, parfois associée à une perte de poids, et les autres signes de l'altération de l'état général.
Professeur Soumaré, très souvent, pour les enfants qui naissent, on parle souvent d'un vaccin appelé BCG. Qui doit normalement protéger contre la tuberculose. Est-ce que ce vaccin, une fois qu'un enfant est vacciné par rapport à ce vaccin BCG, il peut être immunisé contre cette maladie-là qui est la tuberculose?
Merci pour cette question. Bon, avant d'arriver là, je vais tout juste parler un peu de la toux concernant la tuberculose. Parce qu'il a parlé d'une toux aiguë. La tuberculose, la différence entre une toux aiguë et une toux chronique, c'est une toux dans notre jargon qui dure plus d'une semaine. Okay. Donc, une toux aiguë, c'est moins d'une semaine. Donc, la tuberculose donne une toux chronique s'il n'est pas traité. Donc, la toux est longue. Donc, ça va jusqu'à deux semaines. Et raison pour laquelle, chaque fois, il lance un appel à la télévision pour dire tout qui dépasse plus de deux semaines, d'aller voir un médecin. Donc, il s'agit d'une toux chronique. Par rapport à ces sujets de vaccins qu'on appelle le BCG, c'est le bacille de Calmette et Guérin. C'est des savants qui ont inventé ces vaccins et ils ont donné leur nom. Donc, ces vaccins, c'est des bacilles atténuées. C'est des microbes de la tuberculose qu'ils ont pris et que c'est atténué. Ils injectent dans l'organisme pour que l'organisme puisse être un peu immunisé contre la maladie, au cas où la maladie rentre. Donc, ces vaccins ne protègent pas à 100% contre la tuberculose, mais ça évite les formes graves. Parce qu'en matière de tuberculose, il y a ce qu'on appelle les formes graves. Il y a la tuberculose, c'est-à-dire disséminée, qui peut atteindre tout l'organisme. Comme il a dit, il y a la forme pulmonaire et la forme extra-pulmonaire, mais les deux, c'est-à-dire, peuvent coexister. C'est-à-dire, c'est une tuberculose qui est véhiculée à travers le sang et qui va dans tout l'organisme. Ça, c'est une forme grave. Une autre forme grave, c'est quoi? C'est lorsque la tuberculose atteint le cerveau. Donc, ça entraîne ce qu'on appelle une méningite. Une méningite tuberculeuse. Donc, ça aussi, c'est une forme grave. Donc, le vaccin évite très généralement ces formes graves. Mais le vaccin ne protège pas contre la tuberculose, mais ça permet d'éviter les formes graves de la tuberculose. Et ce vaccin est institué dans le programme élargi de vaccination, comme vous l'avez dit, tout enfant à la naissance, à une semaine, doit faire ce vaccin pour éviter les formes graves. Ça, c'est dans le pays où il y a une endémicité tuberculose, où la tuberculose sévit encore sous forme d'endémicité. Sinon, dans le pays, c'est-à-dire du Nord, en Occident, ce vaccin n'est plus d'actualité. Les gens ne vaccinent pas contre, c'est-à-dire la tuberculose, et puisque ce n'est pas sous forme d'endémicité dans ce pays. Mais chez nous, il est obligatoire que tout enfant qui naisse doit être vacciné par ce vaccin qu'on appelle le BCG de Bacille de Calmette-Guérin. Mais ça ne protège pas à 100% contre la tuberculose, mais ça protège contre les formes graves de la tuberculose, dont la méningite et la miliaire tuberculeuse.
Alors, docteur Soumaré, vous gardez la parole. Vous avez tantôt écorché le volet traitement. Combien dure, en fonction des formes, le traitement de la tuberculose? Combien de temps dure?
Effectivement, il a dit, il a la tuberculose pulmonaire et extra-pulmonaire. Dans la tuberculose pulmonaire, le traitement s'est codifié et c'est partout la même durée, c'est 6 mois. Mais dans la forme extra, dans certaines formes extra-pulmonaires, c'est 6 mois aussi. Mais dans d'autres formes extra-pulmonaires, comme je viens de vous dire, la méningite et la tuberculose osseuse, où il l'a abordé, le traitement va jusqu'à 18 mois. Une année, voire une année et demie. Donc c'est en fonction de l'état clinique du malade que le médecin peut juger d'arrêter les traitements. Sinon, dans le programme de la cellule sectorielle de lutte contre la tuberculose, le VIH et l'hépatite, il est recommandé d'aller à une année. Mais souvent, on juge l'efficacité en fonction de l'état clinique du malade. Si l'état clinique du malade permet d'arrêter à une année, on arrête. Dans les cas contraires, on peut prolonger de 6 mois, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à 18 mois. Donc ça dépend des formes. La forme osseuse et la méningite tuberculeuse, ça c'est une durée de 1 année à 18 mois. Et les autres formes, et la forme pulmonaire, ça c'est 6 mois. On ne dépasse pas 6 mois de traitement. Et le médicament, vous l'avez dit, les médicaments sont gratuits. Et c'est subventionné par l'État. Et durant tout le long du traitement, le malade peut bénéficier de ces médicaments. Et ces médicaments existent, c'est-à-dire au centre le plus proche du malade, pour que le malade ne subisse pas beaucoup de déplacements pour aller et prendre ces médicaments. Donc, même au niveau CESCOM, dans sa localité et dans son quartier, ces médicaments peuvent exister et le malade peut bénéficier.
Alors justement, parlons de la prise en charge, Monsieur Abdoulaye Koulibaly. Comment est organisée la prise en charge au niveau des centres de santé de référence, comme vous l'aviez dit? Comment est-ce que quand un malade arrive sur place, il est pris en charge?
Voilà, lorsque vous arrivez en place, vous êtes pris en charge par les gens, là, les infirmiers ou quoi. Là. Il y a un détachement qui est là, qui se charge des malades de tuberculose. Donc vous arrivez, vous expliquez que vous êtes là pour ça. Donc on vous donne votre carnet, on regarde le carnet et puis on vous donne le médicament. Donc le médicament là, c'est à prendre chaque jour. Et donc dans certains cas, il y a les médicaments et il y a les vaccins aussi. Et donc s'il y a les vaccins, on fait le vaccin chaque jour aussi. Donc, mais très généralement, à la première phase, on donne les médicaments. Donc maintenant, vous prenez le médicament chaque jour. Quand les médicaments prennent fin, vous revenez, on vous donne encore les médicaments. Mais les médicaments, là, ne sont pas payants. C'est gratuit. Et quand vous arrivez, on vous donne sur place.
Est-ce que dans cette prise en charge-là, vous avez eu à rencontrer des difficultés?
Bon, les difficultés sont souvent quand vous arrivez, les gens qui sont là et qui sont là pour vous servir. Souvent, vous arrivez, vous trouvez que vraiment la personne qui est chargée de vous donner les médicaments est absent, ou bien souvent il est en déplacement. Donc vous êtes obligé de les attendre, ou bien soit on vous dit, bon, si vous avez un tout petit pied, allez-y, vous allez revenir le lendemain. Bon, ça c'est des cas, bon, souvent Si vous arrivez et que la personne est en déplacement, s'il n'y a pas une autre personne pour gérer la situation et que vous avez le dernier médicament qui est dans votre main, si vous utilisez ça aujourd'hui, vous n'avez pas pour demain. Donc, ce qui va poser problème maintenant. Donc ça, c'est très généralement les problèmes qu'on rencontre dans les CCRM.
Mais est-ce que vous n'aviez pas, disons, une réserve, le fait qu'en tant que malade à l'époque, vous vous présentiez de vous-même au centre de santé et vous partez à quelle fréquence pour récupérer les médicaments également? Combien de fois vous partez? Est-ce que c'était chaque jour ou c'était par semaine? Vous partez comment?
Bon, très généralement, on donne par semaine. Par semaine, une semaine. Souvent, on vous donne à deux semaines. Donc vous partez chaque semaine récupérer les médicaments, ou bien soit on vous donne à deux semaines. Chaque deux semaines, vous partez récupérer les médicaments. Et les médicaments sont obligatoires à prendre chaque jour. Il n'y a pas d'intervalle entre les jours. On vous dit, bon, les médicaments-là, il faut les avaler chaque jour. Si vous laissez un seul jour seulement sans avaler, ça veut dire que les jours que vous avez pris le médicament-là sont partis à l'air. Donc maintenant, vous êtes obligé de prendre les médicaments chaque jour et à l'heure convenue. Si vous prenez aujourd'hui à 8h, demain matin à 8h, vous prenez les médicaments chaque jour. Donc avant la fin de semaine, vous partez au CCRA pour aller récupérer une autre.
Mais en tant que malade, ce déplacement-là ne jouait pas, à l'époque, en tant que malade, ne jouait pas sur vous?
Ça dépend de l'état du malade.
Okay.
Ça dépend de l'état du malade. Si la personne est apte à se déplacer pour aller récupérer les médicaments, il va se déplacer pour aller récupérer les médicaments. S'il n'est pas apte, il peut donner son carnet à quelqu'un qui est montré au CCRF, dont la personne, son nom, est déjà écrit au CCRF là-bas comme, comment dirais-je, voilà, comme point focal. Donc la personne ira récupérer le médicament pour le malade.
Alors, docteur Koné, en croire M. Koulibaly, le malade se déplace pour aller au centre de santé récupérer les médicaments sur place. J'aurais compris que c'est cette méthode qu'on appelle la stratégie d'Hodges également. Est-ce que cette formule marche réellement?
Oui, nous pouvons dire que cette formule marche, mais il peut y avoir quelques difficultés en fonction des réalités de la zone. Pourquoi la prise directement observée? Sinon, normalement, le patient il doit aller au niveau de la structure de santé tous les matins prendre le médicament sous l'œil vigilant du point focal. Mais avec la décentralisation, donc le traitement est décentralisé. Donc au niveau de chaque centre de santé de référence, il y a un point focal, sinon une équipe qui est là, qui est chargée de la distribution des médicaments. Au niveau des centres de santé communautaires en milieu rural, les DTC et leurs équipes sont aussi chargées de faire cette distribution et de suivre les traitements observés. Mais il faut aussi ajouter qu'on a ce qu'on appelle des relais communautaires. Pour faciliter tout cela et réduire le taux d'abandon du traitement, il y a des relais communautaires qu'on peut retrouver dans les petits villages. Donc, et ils récupèrent les médicaments avec les directeurs techniques des centres, ils les gardent de façon périodique, les DTC donnent. Chaque matin, il doit aller chez le malade, lui donner les médicaments. Maintenant, souvent, pour éviter tout ça, s'il y a des goulots d'étranglement, encore d'autres difficultés, qu'est-ce qu'on on cherche la personne de confiance du malade ou encore la personne qui peut l'effrayer de temps en temps pour le pousser à prendre le médicament et ce dernier va suivre la prise observée du médicament. Parce que tout ça, c'est pour éviter et aux patients de ne pas abandonner le traitement. Parce que l'abandon du traitement est délétère pour le malade.
Alors, vous gardez la parole toujours. On dit également qu'en cas de disparition d'un malade, parce qu'on dit qu'il y a un point focal, il y a le suivi de la malade, et certains également échappent d'après quelques explications. Est-ce qu'on parle de résistance par rapport à cette maladie-là? Quelle est la procédure enclenchée quand un malade disparaît des radars pour le suivi? Et qu'est-ce que cette résistance peut provoquer également?
Ok. Donc déjà, il faut savoir qu'en cas de perdu de vue, le patient il disparaît, on ne le voit pas une fois, deux fois. Donc, l'alerte doit être donnée. Donc, parce que maintenant, avec la technologie, il y a le numéro de téléphone, il y a des parents qui sont enregistrés. Donc, on passe par le numéro de téléphone, essaie de savoir qu'est-ce qui se passe pour faire ce qu'on appelle la recherche active des cas. Donc, on implique les relais communautaires, même le DTC ou encore le médecin-chef, il doit se déplacer pour aller comprendre réellement le phénomène qui a fait que la personne a abandonné. Donc, pour essayer de corriger cette difficulté. Maintenant, le gros problème, c'est quoi ? Donc, en cas d'abandon du traitement, il y aura ce qu'on appelle l'émergence vers des souches résistantes, dont la prise en charge est problématique. Parce que là, on vous traite avec une combinaison de 4 molécules puis de 2 molécules. Mais en cas de résistance diagnostiquée, le traitement, c'est maintenant que c'est réduit. Le traitement, c'était aux alentours de 2 ans. Donc, vous prenez des médicaments, vous êtes injecté par des médicaments et ce sont des médicaments qui sont toxiques, qui peuvent avoir des effets secondaires. Donc, nous faisons tout pour éviter l'émergence vers la résistance. La résistance, elle est délétère et catastrophique d'ailleurs, non seulement pour le malade, pour l'entourage. Parce que quelqu'un qui est atteint de la forme multirésistante de la tuberculose ne fait que véhiculer les germes multirésistants pour la communauté. Donc, le traitement est coûteux, le traitement est couronné d'effets secondaires majeurs.
Professeur Soumaré, des faits qui nous reviennent également, c'est que à chaque fois qu'on entend qu'une personne ou quand on annonce qu'une personne porte cette maladie-là, certaines personnes se déplacent ou partent tardivement se faire dépister.
Effectivement, dans notre service, nous avons constaté, nous avons même fait une étude par rapport au recours tardif des malades au niveau des soins. Donc, nous avons constaté que ces malades, les malades qui toussent, très généralement, comme dans notre jargon, certains considèrent la tuberculose comme une malédiction. Notre jargon, dans notre milieu, considère la tuberculose comme étant une malédiction. Donc, toute personne qui a une toux chronique, qui est en train de tousser, au lieu que les gens t'encouragent à aller faire le dépistage, ils te fuient. Quand ils te fuient, la personne aussi se voit seule. Et il est obligé de prendre ses distances. Donc, ce qui fait que souvent, les gens vont très tardivement au niveau des structures des soins pour se faire dépister. Et ils font recours aux tradithérapeutes dans un premier temps pour essayer de traiter, c'est-à-dire cette toux qui est chronique. Et malgré, c'est-à-dire le traitement de tradithérapeute, la maladie évolue. Et en ce moment, ils viennent au niveau des centres de soins pour se faire dépister. Et c'est en ce moment que nous trouvons que ces personnes ont la tuberculose avec des liaisons étendues graves et qui vont laisser des séquelles. Et normalement, la personne qui a une tuberculose, il se trouve dans un environnement. Il a dit que le traitement, c'est normalement un traitement directement observé. Si le traitement n'est pas bien fait, la personne va véhiculer la maladie dans la communauté. Et une personne qui a une tuberculose qui n'est pas traité, il peut contaminer 10 à 15 malades par an. Imaginez un malade
qui... Reprenons, une personne qui souffre
d'une tuberculose qui n'est pas traitée, okay. Il peut contaminer 10 à 15 personnes par an de tuberculose. Donc, ceci aussi peuvent contaminer, donc il faut voir la chaîne de contamination. Donc, raison pour laquelle un malade perdu de vie, il faut prendre au sérieux, il a dit. Donc, ces malades qui tous. Et normalement, dans la communauté, chacun est interpellé. Au lieu de les fuir, chacun est interpellé pour les encourager à aller se faire dépister au centre le plus proche de chez lui. Actuellement, il y a ce qu'on appelle les centres de diagnostic et de traitement. Tous les CCRF, les centres de santé de référence du pays, sont codifiés comme des centres de dépistage et de traitement. Ils peuvent faire le dépistage. Et les CESCOM, ce sont les centres de traitement.
Il a dit qu'il y a même des centres de traitement qui ne sont pas des SOSCOM où on remet, c'est-à-dire les traitements au niveau des relais communautaires qui donnent aux malades, tout simplement pour faciliter les déplacements aux malades. Maintenant, les recours tardifs aux structures des soins font que des malades guérissent, mais ils guérissent avec des séquelles, et des séquelles qui sont invalidantes. Des séquelles qui sont invalidantes, en ces termes, c'est des malades qui vont avoir des handicaps respiratoires à vie, avec des difficultés respiratoires. Il faut souvent recourir à une oxygénothérapie, ce qu'on appelle à longue durée. Donc, ils auront besoin de l'oxygène tout le temps, puisqu'ils ont des poumons qui sont sévèrement atteints. Donc, ces recours tardifs n'ont autre que le rejet de ces malades dans la communauté. Donc, il faut que la population comprenne que ces malades, la tuberculose, c'est une maladie comme les autres. Et c'est une maladie qui peut être guérie. C'est une maladie qui peut être dépistée. Le dépistement est gratuit, le traitement est gratuit et la guérison est succès, avec succès. Donc, un malade qui tousse et qui a une tuberculose dans la communauté, il faut l'aider. Sinon, toi qui es le plus proche de ce malade, c'est toi qui cours des risques. C'est ça qui court des risques à attraper cette maladie. Et une fois que c'est dans la communauté, dans la famille, la maladie tourne. Et là, c'est-à-dire, il faut éviter, celui qui fait la tuberculose deux ou trois fois, il risque de détruire tout son poumon.
Alors, mais est-ce possible que dans une durée de vie, qu'une personne puisse faire la tuberculose deux, trois ou quatre fois dans sa vie, ou on l'attrape qu'une seule fois?
Si, on a vu des malades qui ont fait deux fois, trois fois la tuberculose, mais il sort avec des poumons, ce qu'on appelle des poumons détruits, complètement. Parce qu'à chaque atteinte, la tuberculose détruit une partie du poumon. À chaque atteinte, la tuberculose, si c'est la découverte est faite tardivement, à chaque atteinte, la tuberculose la tuberculose détruit une partie du poumon. Et ça laisse des séquelles. Cette partie n'est plus régénérée. Donc, c'est ce qu'on appelle un poumon séquelaire. Donc, il y a des malades qui attrapent une, deux, trois fois la tuberculose. Et le risque, c'est quoi? Il a dit, du fait, c'est-à-dire d'attraper la tuberculose plusieurs fois, on a fait aussi une étude, c'est des malades très généralement qui ne sont pas observants au traitement. Ils prennent le traitement une semaine et ils peuvent avoir des difficultés. Ça peut être lié, c'est-à-dire aux agents de santé, par rapport aux médicaments, des difficultés à avoir des médicaments, et ils laissent pendant une semaine, alors que le bacille n'attend pas. Le microbe de la tuberculose multiplie chaque 20 heures. Donc c'est ce qui fait que c'est une seule prise, pour ne pas donner le temps au bacille de se multiplier, de rompre la chaîne. Donc voilà un peu, il faut que le malade soit observant, il faut que le malade qui tousse, et quelle que soit la toux, parce qu'on dit une toux chronique, la toux est d'abord aiguë. C'est-à-dire tu peux tousser une première et pendant une journée, deuxième journée, troisième journée, il faut aller te faire dépister avant que ça ne soit chronique. Mais la tuberculose donne toujours une toux chronique. Vous prenez des médicaments contre la toux et ces médicaments ne vont pas, c'est-à-dire guérir cette toux et ça va évoluer tant que vous ne vous dépistez pas. Et si vous ne dépistez pas à temps, ça peut laisser, c'est-à-dire ce qu'on appelle des séquelles. Et même si vous guérissez de la tuberculose, vous serez une personne handicapante sur le plan respiratoire.
Monsieur Koulibaly, je vous voyais hausser la tête tout à l'heure quand Monsieur Soumaré parlait. Il a tantôt dit que la tuberculose, c'est une maladie qui se guérit. Heureusement, vous êtes la preuve palpante. Oui. Et dans votre cas, est-ce que vous êtes parti directement dans un centre de santé pour vous faire dépister, ou bien vous avez commencé également, comme il l'a dit dans ses propos, aller vers les tradis thérapeutes avant d'y aller?
Non, moi je ne suis pas allé chez les tradis thérapeutes. Dès que je suis, que mon état n'allait pas, je suis parti directement au CCRF pour aller leur expliquer que bon, moi, je n'étais pas de cet état. Parce que j'avais commencé à maigrir, j'avais des maux de tête, la courbature, et puis, tu vois, plein de choses. Donc quand je suis parti m'expliquer, le médecin qui était là, il me disait, bon, M. Koulibaly, c'est ce qu'on va faire. Je vais te donner un document, vous allez faire la radiographie. On va voir ce que vous avez.
Alors, donc, mais comment votre entourage a pris cette nouvelle-là? Comment vous avez annoncé à votre entourage? Parce que apparemment, il a dit que c'est une maladie où les gens ont honte de dire qu'ils l'ont.
Oui, bon, le problème, c'est que, c'est comme il a si bien dit, le premier truc que les gens doivent comprendre, c'est que la maladie, comme la tuberculose, c'est une maladie qui se traite et qui se guérit sans problème. Mais la plupart des parents, quand ils savent que leurs enfants ont la tuberculose ou bien leurs maris ont la tuberculose, ils les rejettent. Au lieu de les pousser à aller à l'hôpital pour aller se soigner, ils les rejettent. Bon, c'est le rejet là qui tue le malade même avant la maladie. Parce que dès qu'ils ont en tête qu'ils sont rejetés par les membres de leur famille, donc ils sont découragés. S'ils sont découragés, donc ils ont dans leur tête que leur vie est déjà finie. Donc ils n'ont plus le courage d'aller pour aller se faire dépister dans les hôpitaux. Donc souvent aussi, s'ils partent faire le dépistage, si on leur donne le médicament, s'ils arrivent à la maison, pour s'expliquer, c'est un problème chez d'autres. Parce qu'ils pensent que s'ils s'expliquent comme quoi ils ont la tuberculose, les gens vont les rejeter. Donc, raison pour laquelle la plupart des gens, ils arrivent très tardivement dans les hôpitaux.
Donc, docteur Kone, souvent on dit que pour faire le dépistage de la tuberculose, il faut faire également celui du sida. Et quel lien fait-on entre ces deux maladies-là?
Il faut savoir que nous vivons pratiquement tous avec le bacille de Koch. Nous vivons parce que c'est des bactéries qu'on attrape dans la nature. Mais l'organisme se défend et cette bactérie peut rester dans l'organisme sous forme latente sans faire la maladie. Donc du coup, il suffit qu'il y ait une situation, que ce soit le diabète, que ce soit le VIH-Sida, que ce soit une forte grippe, hein, le VIH. Donc vous voyez, donc ça c'est des facteurs qui vont entraîner une renaissance de ces bactéries et le sujet il va faire la maladie. Donc, comme dans notre zone, en Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de cas de VIH. Donc, là, le VIH va réveiller les BK. Donc, systématiquement, quelqu'un qui est atteint du VIH, on fait une recherche active de la tuberculose. Et quand tu as la tuberculose, on recherche aussi le VIH s'il n'y a pas le VIH en dessous. Donc, pour faire un traitement optimum et que le sujet il puisse être guéri sans laisser des séquelles.
Mais est-ce que ces deux maladies, comme on le dit, ils sont liés? C'est pas ça qui font qu'aujourd'hui les gens soient réellement réticents à aller faire ces tests-là?
Oui, boss, il peut y avoir une réticence, mais il n'est pas dit que toute personne qui fait la tuberculose fait le VIH ou encore toute personne qui fait le VIH fait la tuberculose. Donc il y a des gens qui font leur tuberculose, il n'y a pas d'autres facteurs en dessous. Mais il faut savoir que ça, c'est des facteurs qui font réellement que le sujet peut faire facilement la maladie de la tuberculose.
Professeur Soumaré, est-ce qu'il existe encore d'autres liens avec la tuberculose et d'autres maladies?
Bon, comme il a si bien dit...
À part le cas du sida, bien sûr.
Il n'est pas dit forcément que quand il y a la tuberculose, il faut que les gens comprennent que tu as le VIH. Mais il a dit que c'est une maladie qui peut entraîner une diminution des défenses immunitaires. Et ça peut exposer facilement à faire la tuberculose. Et raison pour laquelle, quand quelqu'un a une tuberculose, on recherche le VIH. Mais en dehors du VIH, il y a d'autres maladies aussi qui peuvent entraîner, c'est-à-dire ce qu'on appelle une immunodépression. Immunodépression, c'est quoi? C'est les défenses naturelles de l'organisme là, qui sont attaquées par d'autres maladies. Il peut s'agir du cancer. Quelqu'un qui a le cancer, il peut faire, c'est-à-dire une infection comme la tuberculose. Il a dit, le diabète mal équilibré, un diabétique qui prend son traitement, il est comme les autres, mais si c'est très mal équilibré chaque fois, donc il peut faire facilement la tuberculose aussi parce que ça se vit dans notre environnement. Et quelqu'un qui a une maladie comme ce qu'on appelle les lymphomes, ça c'est des cancers, les tumeurs du sang, le cancer du sang, il peut faire aussi, c'est-à-dire la tuberculose. Quelqu'un qui est même drépanocyteur, on a vu,
les drépanocytaires. Donc ça entraîne une diminution des défenses de l'organisme. Et quelqu'un qui est alcoolique, qui prend de l'alcool de façon abusive, il peut atténuer ses défenses immunitaires et exposer à faire la tuberculose. Quelqu'un qui fume du tabac, donc là aussi, il peut entraîner une défaillance au niveau, c'est-à-dire du système respiratoire. Donc, il peut faire facilement cette maladie qu'on appelle la tuberculose. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent exposer à faire la tuberculose. Mais l'inquiétude, c'est que vous avez dit souvent par rapport à cette maladie. Et les gens vont dans notre milieu, quand on dit quelqu'un a la tuberculose, il se dit, oh, peut-être il a le VIH. Donc, on n'a pas dit ces deux maladies qui sont liées. Pas liées. Donc, on a vu beaucoup de cas de tuberculose où on a fait le dépistage du VIH, ils n'ont pas de VIH, de sida. Et on a vu beaucoup de cas aussi de VIH où on fait la recherche active de la tuberculose, non pas la tuberculose. Donc, mais il est judicieux quand même de savoir, quelqu'un qui fait la tuberculose, s'il fait le VIH, de donner, comme il a dit, le traitement à temps pour les deux maladies, pour ne pas exposer l'organisme à d'autres dangers.
Alors, tout au long de cette émission, on a écorché également ce cas-là, la gratuité du traitement. Est-ce qu'on a une idée, par exemple, du montant injecté dans ce traitement-là et également d'où vient ce médicament-là?
Bon, ces médicaments, depuis fort longtemps, c'est des médicaments qui sont subventionnés par l'État. Quand on dit subventionnés par l'État, donc c'est l'État à travers des organismes. Avant, c'était le Fonds mondial, c'est toujours le Fonds mondial, mais à travers l'État. Donc, ces médicaments, d'un côté, pour le malade, c'est gratuit. Mais il y a quelqu'un qui dépense. Il y a des dépenses qui sont faites pour acheter ces médicaments. Mais pour le malade, c'est gratuit. Donc, c'est gratuit du début à la fin. Mais il y a d'autres, quand on dit c'est gratuit, cette gratuité par rapport à la prise en charge de la tuberculose n'est pas totale. C'est les médicaments qui sont gratuits. Le dépistage est gratuit. Mais je sais qu'il a fait la radio, c'est pas gratuit. Il a payé de sa poche. Et quand il y a des examens de sang aussi, obligatoirement, par rapport à la gestion de cette tuberculose, la personne paye sa poche. Donc, c'est le médicament et le dépistage qui sont gratuits et qui sont pris en charge par l'État. Et l'État a fait un effort jusqu'à preuve du contraire pour assurer, c'est-à-dire cette gratuité, et pour mettre à disposition des agents de santé ces médicaments. Bien vrai qu'on a eu des ruptures à certains moments. Donc,
j'allais en parler. Et voilà. À un moment donné, on parlait de rupture de ce médicament-là.
On a connu des ruptures avec le Fonds mondial où il y a eu, c'est-à-dire ce problème de l'État avec le Fonds mondial.
Le Fonds mondial, problème de financement.
Problème de financement. Donc, ils ont arrêté le financement. Et voilà, il y a eu des ruptures. Et donc, ce que nous voulons, c'est que l'État puisse prendre, c'est-à-dire à prendre le corps, le traitement, sans passer par des barrières. Donc, pour que au moins, si d'éventuels problèmes arrivent avec ce barrière, qu'il n'y aura pas de rupture. Donc, c'est le cri de cœur que nous lançons au niveau de l'État. Il y a certains pays où l'État prenne, c'est-à-dire sans passer par les barrières et le Fonds mondial, et assure la gratuité. Donc, il y a certains pays, même africains. Maintenant, nous voulons que notre État aussi, comme nous voulons un Malikoura, avec tous ceux qui s'en suivent pour une autonomie et une indépendance totale, il faut que l'État aussi arrive à assurer à 100% sans passer par le Fonds mondial pour l'approvisionnement de l'État à ces médicaments au bénéfice des malades.
Docteur Kone, en attendant que l'État puisse prendre ce traitement-là 100% à sa charge, Soumaré parlait tout à l'heure des partenaires comme le Fonds mondial. Est-ce qu'il existe aujourd'hui d'autres partenaires qui interviennent dans la lutte contre la tuberculose dans le pays?
Localement, dans certaines zones, il y a certaines ONG qui appuient les structures de santé pour vraiment une prise en charge adéquate de ces patients. Mais le partenaire privilégié de l'État par rapport à la prise en charge de la tuberculose reste le Fonds mondial. Et je pense que récemment même, il y a eu la présence d'une équipe du Fonds mondial pour venir renouveler ce partenariat en mettant un fonds conséquent à la disposition de l'État pour assurer la poursuite du traitement de ces patients vivant avec la tuberculose. J'ajoute aussi que le traitement est très coûteux. Je ne saurais donner un montant exact parce qu'une partie est prise en charge par le malade, une partie est prise en charge par l'État via ses partenaires, mais nous demandons aux patients de bien prendre soin de ces médicaments parce que si on laisse ces patients payer ces médicaments, ils ne pourront pas. Donc là, il faut vraiment qu'ils adhèrent au traitement, qu'ils suivent leur traitement. Et un mot pour qui me tient à cœur, c'est le tabac et les lésions de la tuberculose. Le tabac constitue un facteur d'aggravation des lésions. Un sujet tabagique qui fait la tuberculose et un sujet non-fumeur qui fait la tuberculose n'ont pas les mêmes formes de lésions au niveau pulmonaire. Les tabagiques font les formes les plus graves de la tuberculose et avec des séquelles très graves.
Mais est-ce qu'on sent, docteur Kone, une synergie d'action entre ces différents acteurs qui interviennent sur le terrain dans la lutte contre la maladie?
Effectivement, il y a une synergie d'action, mais tout est centralisé au niveau des médecins chef ou encore au niveau des directeurs techniques des centres de santé, vraiment pour une prise en charge correcte et adéquate de ces patients tuberculeux.
Alors, il nous reste 4 petites minutes pour clore cette émission. Le temps d'une dernière question en tour de table. Je commencerai par vous, M. Abdoulaye Koulibaly. Un Mali sans tuberculose, est-ce que selon vous, cette vision, elle peut être immédiate ou lointaine? Est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'on y arrive? Et si oui, vous pensez que c'est bien possible dans combien d'années?
C'est bien possible, oui, c'est bien possible. Et ça se passe à travers la communication. Ça se passe à travers la communication. C'est-à-dire quand on voit quelqu'un qui tousse et que la toux ne s'arrête pas, qu'on explique à la personne d'aller se faire dépister. Après le dépistage, si on détecte que la personne est atteinte par la maladie, qu'on le met sur la voie du traitement. Et sur la voie du traitement aussi, les médicaments qu'on leur donne, qu'ils prennent les médicaments. Parce que, comme il a si bien dit le monsieur, les médicaments là sont extrêmement chers. Et c'est des médicaments qui ne se vendent pas n'importe comment. Ces médicaments là sont achetés par l'État avec d'autres partenaires. Si on dit aux parents des patients d'aller acheter ces médicaments-là, ils n'ont pas les moyens. Donc, il faut que les parents savent que c'est l'argent, le contribuable de l'État qu'on met dans ces médicaments-là pour soigner les citoyens. Et que les citoyens aussi doivent être conscients de savoir que c'est eux qui sont les malades, c'est eux qui doivent prendre les médicaments pour avoir une bonne santé. Mais les parents aussi doivent savoir que vraiment, ils doivent essayer de soutenir les malades pour qu'ils prennent les médicaments.
Alors, professeur Soumaré, comme il vient de le dire, est-ce que la prise en charge immédiate et le suivi irrégulier dans la prise de médicaments peuvent être, les facteurs pour lutter contre cette maladie-là immédiatement? Est-ce qu'on peut l'éradiquer?
Effectivement, on s'est dit, la tuberculose, c'était une maladie mondial, partout. Comment en Occident ils ont pu l'éradiquer? Et pourquoi chez nous ça persiste? Donc le point d'interrogation est posé. Le gros problème de la tuberculose, on dit que c'est une maladie de pauvreté, c'est une maladie de promiscuité. Donc la meilleure façon de lutter contre la tuberculose, c'est de lutter contre la promiscuité, la pauvreté. Ça doit faire partie de la lutte contre la tuberculose. Quand on essaie de voir, nous sommes en période hivernale actuellement. Les goudrons, il n'y a pas de goudron à Bamako, il n'y a pas des ordures qui sont entachées partout. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, pour lutter contre la tuberculose, il faut éradiquer la population. Éduquer la population.
il faut éduquer notre population. Pour éduquer la population, ça passe par l'instruction. Il a dit la communication. Donc, un malade qui tousse et qui crasse par terre, ça permet de véhiculer le germe. Donc, il y a ce comportement.
Alors, on me dit que c'est presque la fin, le temps de donner la parole à Dr Koné.
Donc, on peut éradiquer la tuberculose. Et la meilleure façon d'éradiquer, c'est dépister et traiter.
D'autres idées également pour venir à bout de cette maladie dans le pays, Dr Koné?
On se dit, c'est l'information, l'éducation pour un changement de comportement. Avec cela, nous pourrons vaincre la tuberculose au Mali et partout dans le monde.
Alors, je ne vais plus conclure, vous l'avez fait. Ainsi prend fin cette émission du Grand Dialogue produite et diffusée dans le cadre d'une campagne nationale de lutte contre la tuberculose, une initiative du ministère de la Santé soutenue par le Réseau africain de l'éducation pour la santé et la citoyenneté en abrégé, RAES. Grand merci à nos invités, professeur Djangina Soumaré, expert en tuberculose, docteur Salif Koné, pneumologue, Abdoulaye Koulibaly, malade guéri de la tuberculose. À la réalisation de cette émission, Imirana Kilou Maïga, à la régie son et vidéo Seydou Ndaou et Salim Djouara, je suis Mariam Maïga. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois.